Autre radio, autre culture, bonjour. Audio People et autres radios, autre culture vous présentent les deuxièmes rencontres de la création sonore qui se sont déroulées au SAE Institute de Paris, les 26 et 27 mai 2010. Bonne écoute.
Bon, bah, bravo. Bah, moi, j'ai noté à la volée hein, un certain nombre de commentaires. Quelqu'un nous a parlé des carences de la prise de son de l'époque. Si on s'approprie cette quête, se dire mais il y avait des carences techniques à l'époque et c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'un artiste ou une artiste ne peut plus s'exprimer aujourd'hui avec le niveau qu'elle pouvait réellement donner à l'époque. Donc il y a un certain nombre de questions. Donc là, Olivier Attia, qui dirige la société Audionamix, va nous parler de son approche, des outils qu'il propose. Est-ce que c'est modernisation d'enregistrement ancien? Est-ce que c'est restauration? Toute la question est posée. Ce qui compte derrière, c'est quelle est l'intention du directeur artistique, parce que quelque part, derrière tout ça, il y a des démarches artistiques. Donc à partir du moment où il y a une démarche artistique et qu'on colle à ce projet, je pense que les choses sont recevables. En tous les cas, on laisse Olivier présenter son...
Audionamix, voilà, c'est une société française de recherche. Et en fait, c'est parti d'un dilemme très simple. 2003, des ingénieurs, des docteurs en traitement du signal qui se disent, c'est pas possible, on peut y arriver maintenant. Cette histoire de Blind Audio Source Separation, BASS, être capable de séparer les sources à partir d'un mono ou d'un stéréo, avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec les algorithmes, avec les ordinateurs, on doit pouvoir y arriver. Donc 2003, c'est un laboratoire de recherche qui est basé là-dessus. Et pendant 2, 3, 4 ans, des recherches, des algorithmes, des plugins Pro Tools en interne, juste pour tester, pour voir ce qu'on est capable de faire. Et parallèlement à ça, une industrie qui commence à évoluer avec une demande en HD et une demande de meilleure qualité, surtout dans le monde du cinéma aux États-Unis, où on a de plus en plus besoin d'une bonne qualité de son surround. Et cette énorme back catalogue des sociétés américaines qui doit passer en DVD, maintenant Blu-ray. Dilemme, on sait que le sacré Graal, ce qu'on appelle le sacré Graal, la séparation pure, parfaite, on ne va pas y arriver tout de suite, mais en attendant, on commence à avoir d'excellents résultats, enfin, de bons résultats qui nous permettent de nous dire, on va essayer, on va poser la question aux majors, on va aller voir les ingénieurs son des sociétés américaines en leur disant, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà les exemples, je vais vous montrer certains exemples ici, dans ce domaine, et un effet boule de neige parce que on n'est pas forcément capable de faire une séparation pure tous les instruments, tous les éléments, mais la voix en commence à être assez bon, c'est-à-dire la voix chantée, être capable de pouvoir l'extraire pour uniquement utiliser la voix ou uniquement utiliser les versions instrumentales. À force de travailler avec les majors du cinéma, on s'est aperçu en fait que ce qu'ils voulaient, c'est avoir une histoire, non pas seulement une technologie mais aussi une histoire. Pourquoi? On a sorti 10, 15, 20 fois les mêmes titres, mais l'expérience musicale, l'expérience sonore est différente avec ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est-à-dire des sources séparées qui permettent de faire un vrai surround. Et donc, la plupart des films sur lesquels nous travaillons aujourd'hui doivent maintenant avoir ce logo ADX Audio Dynamic Extraction Original Master.
Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est...
The strong emotional aspect of the movie had to be enhanced by a first quality treatment of the sound of Edith Piaf's voice. And this was the real challenge of it. But to succeed, we needed a technology that didn't exist yet. Fortunately, we met a brand new startup, Audionamix, that was developing an amazing software that could fit with our needs.
And do to create. In order to make a new HD mix from an old recording that was originally designed for monophonic systems, we need separated tracks. To achieve this, we have designed a new technology based on signal processing methods. Our software is capable of strongly isolating the different instruments used in the song.
Over the years, lots of technologies have been put to the test in our studios. Audionamix impressed us right away. We realized the enormous potential immediately. Being able to have separate tracks gave our sound mixers an impressive range of possibilities.
J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais.
En effet, à partir des...
Using Audionamics separated tracks, we had the element to make a mix of a quality never reached. We had to combine our techniques and artistic sensitivity in order to preserve the original tone of these masterpieces. But eventually, we were really amazed.
Until the final dubbing mix, I was very anxious. But the results was, for every one of us, far beyond our expectations. Not only the voice of Edith Piaf was preserved and enlightened, but the spatialization was wonderful.
Cet exemple, en fait, c'était le début d'une histoire commerciale. On n'est plus vraiment un laboratoire maintenant, on commence à avoir une activité commerciale. L'effet la môme a été quand même assez conséquent pour nous. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement fait l'extraction de la voix originale d'Edith Piaf, qui a été, comme vous l'avez compris, reprise et remasterisée par M. Dubois. Là, c'est un exemple technique pour vous montrer notre capacité à séparer les instruments d'un morceau de jazz. Évidemment, les éléments, comme vous allez l'entendre, il y a toujours des artefacts, il y a toujours des éléments dans le piano, il reste encore peut-être un petit peu de violon, mais... À partir de là, comme on dit chez nous, the sky is the limit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser avec tous les instruments, les éléments. Ce que vous avez ici juste avant, ce Cappadocia, c'est un exemple très intéressant. C'est une série. C'est même plus donc un film sur lequel on devait travailler et faire simplement un épisode. Mais c'est une série d'épisodes dans lequel on a dû récupérer les éléments cohérents pour pouvoir faire en sorte que la machine comprenne que sur les 20 épisodes, ben, y a des éléments qu'on peut récupérer pour faire en sorte que le travail soit plus facile pour la machine. Après, je vais expliquer quelles sont les méthodes qu'on a aujourd'hui à notre disposition et je vais continuer avec les exemples qu'on a ici. Le plus marquant... J'ai pris cet exemple parce qu'il y avait de la voix à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, évidemment, il y a des exemples où ça marche bien, des exemples où ça marche moins bien. Ce qui est très intéressant maintenant, c'est de travailler avec des ingénieurs son à qui on fournit donc ce qu'on appelle les démix. Donc pour revenir au débat que nous avons aujourd'hui, c'est jusqu'où on peut aller dans la partie de remastering, de restauration. Ce qu'on fait aujourd'hui, nous, c'est la première partie, ce qu'on appelle le démix. Le remix, on travaille avec les studios américains qui ont leur propre ingénieur son, qui ont déjà les personnes en interne, qui savent jusqu'où ils peuvent aller dans la propriété, dans la conservativité, dans la restauration. Il y a deux débats, enfin, il y a deux éléments, la restauration pour préserver ou la restauration pour réécouter. Aujourd'hui, on est bien dans une phase de restauration pour réécouter dans un environnement, parce qu'on a un 5.1, on a tous un écran plat 1080p, mais malheureusement, on se retrouve dans des situations telles que l'on a eu il y a quelques mois, qui est un très bon exemple pour nous, le film Casablanca qui a été sorti par Warner Bros. En Blu-ray, avec une image d'une qualité exceptionnelle, mais un son mono. Alors, c'est vrai que des puristes vont dire « ça doit être le son mono, le son devait être celui qu'il a été au début ». Le point, c'est qu'on est allé un peu plus loin et on a travaillé donc avec un studio américain, le studio Universal, qui nous a fait travailler sur un excellent dossier, le film Psychose. La musique de Psychose est connue, le film de Psychose d'Alfred Hitchcock est une icône. Pour les 50 ans du film, puisqu'il a été fait en 1960, on nous a demandé de travailler sur une version Blu-ray. Ce que nous avons fait, ce Blu-ray, pardon, qui doit sortir normalement pendant l'été, évidemment, on ne pouvait pas en parler, dans la mesure où, comme vous savez, travailler avec les studios américains, tant qu'ils n'ont pas dit, on ne peut rien dire, sauf que ça s'est su. Le résultat était quand même assez exceptionnel quand on voit ce qui a été fait. On parle d'un mono, on récupère un 5.1 d'une excellente qualité. Évidemment, le Blu-ray va avoir les deux versions, la version mono et la version 5.1 remasterisée par notre équipe. Le point était que le Festival de Cannes, donc on revient de Cannes la semaine dernière, le Festival de Cannes a une sélection qui s'appelle Cannes Classique, et ont vu la nouvelle version du film Psychose d'Hitchcock, et nous avons été invités justement à présenter cette nouvelle version à Cannes la semaine dernière, qui a donc eu cette sélection de la catégorie Cannes Classique. Il y a une tendance, une demande sur ce genre de qualité. Ce qu'on va vous montrer, le dernier exemple que j'ai à vous montrer ici, deux exemples en termes d'utilisation. Donc là, je sors de l'upmix, mais je vais dans l'utilisation extraction de voix. D'une part, pour refaire une nouvelle version de la musique. Alors là, c'est un autre cas très intéressant. L'Edith Piaf anglaise, qui s'appelle Vera Lynn, est une dame de 92 ans, qui est encore vivante, qui a chanté une chanson exceptionnelle que tous les Anglais connaissent, We'll Meet Again. Et les studios Universal Music nous ont demandé de faire une extraction de la voix de cet enregistrement original pour qu'il en fasse une nouvelle version. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. We'll meet again. Tout le titre est sur notre site internet, vous pourrez revoir ce qui a été fait. Évidemment, comme ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas encore à la perfection, mais on commence à avoir des choses assez intéressantes sur lesquelles on peut faire des exploitations commerciales. Le dernier point, extraction musicale pour faire une version karaoké et pour faire ce qu'on appelle une version internationale. Je vais expliquer juste après. Once a lonely caterpillar sat and cried to a sympathetic beetle by his side. Once a lonely caterpillar sat and cried to a sympathetic beetle by his side. Alors, on commence à avoir des trucs assez intéressants parce qu'on travaille maintenant avec les jeux de type Guitar Hero et Rock Band qui nous demandent de travailler entre les jeux d'un côté et de l'autre côté les labels qui ont du contenu mono ou stéréo mais qui n'ont pas la version karaoké ou les pistes séparées pour pouvoir les rentrer dans un jeu et on commence à faire ce genre de choses. Dernier exemple, passer directement à ce qu'on appelle une version internationale. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une version sans les dialogues. Quand on fait un enregistrement, il y a les trois éléments, dialogue, musique et effet. Et parfois, pour des raisons de budget, on se retrouve dans des situations où on ne fait qu'une version ou deux versions, une version française, une version anglaise. On a développé un algorithme qui nous permet de faire, d'extraire les dialogues pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une version internationale pour les studios qui veulent aller dans des pays émergents et faire une nouvelle version de type chinoise ou autre.
Alors comme ça on est pressé, on a essayé de voler Monsieur Lee. Eh bien je vais vous en apprendre une bien bonne. Il se trouve que c'est un très bon ami à moi.
Voilà les exemples qu'on a. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu rester dans notre laboratoire à continuer à faire de la recherche, à se dire on n'y est pas encore, il y a encore vraiment du travail, on peut encore améliorer nos algorithmes pour avoir de meilleurs résultats en matière de séparation. Pour être honnête, on a beaucoup, beaucoup de travail déjà, parce que les studios, que ce soit les studios d'un côté et les labels de l'autre, ont beaucoup de demandes. Et cette technologie, effectivement, s'améliore, j'aurais tendance à dire, à peu près tous les trimestres, dans la mesure où dernièrement nous avons été challengés par quelqu'un de quand même assez conséquent dans l'industrie. Quand Hans Zimmer vous appelle pour vous dire « j'ai besoin d'un travail et ça doit être fait dans les deux semaines, j'ai lu un article sur vous et je pense que vous pouvez le faire », voilà, on l'a fait dans les deux semaines. Je ne peux pas vous dire ce que c'est encore, mais ça sortira cette année, une bande musicale sur laquelle nous avons fourni un gros morceau de technologie. Je vous remercie.
Bon, je crois qu'on va se retrouver au cœur du débat, sauf que...
D'abord, je voudrais dire que j'ai rien contre le concept de démixage. Je pense que ça marchera un jour. Pour l'instant, c'est clairement pas... Enfin, y a beaucoup d'artefacts et moi, ça me hérisse le poil. Bref, je pense que ça marchera un jour et que c'est pas le problème. Mais je pense qu'on mélange beaucoup de choses. D'abord, vous mélangez format et qualité. Pour vous, mono, c'est pas bon. 5.1, c'est bon. Alors, ça, déjà, ça se discute énormément. On peut faire de l'excellent 5.1, de l'excellent mono et du très mauvais 5.1. Ensuite, vous mélangez la création et la restauration. Que vous démixiez la voix de Piaf pour faire un film, moi j'ai aucun souci par rapport à ça, c'est de la création, on fait ce qu'on veut, après on aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas de souci. Après, appliquer ça au film de patrimoine, on ouvre la boîte de Pandore, mais surtout il y a un début de réécriture de l'histoire. Parce que d'abord, au nom de quoi on touche au son ? Alors oui, les Américains, les Américains, ils ont fait tellement d'horreurs sur les Hitchcock précédents. Moi, j'ai des DVD, j'ai un DVD de Vertigo qui est juste à mourir de rire. Bref, surtout quand on sait la précision avec laquelle Hitchcock faisait les choses. Enfin, Hitchcock, il n'est plus là. Si le réalisateur veut remixer son film, comme Tati l'a fait, moi, j'ai aucun problème avec ça. Si le réalisateur est mort et qu'il n'a plus son avis à donner, ça me pose quand même des gros, gros problèmes. Et le risque, surtout, d'abord, on réécrit l'histoire parce que le cinéma, comme la chanson, comme tous les arts, c'est quelque chose qui se construit, les éléments se construisent les uns sur les autres, les films sont faits en référence à d'autres, en s'appuyant sur les autres expériences. Si vous remasterisez en 5.1 le son de toutes les films de l'histoire de tous les films de l'histoire du cinéma, il n'y a plus de référence de son. On a une uniformisation totale de ce qu'il y a. Et le jour où Blitz sonnera comme Taxi 4, je ne suis pas sûr que qui que ce soit ait gagné grand-chose. Ça me ramène quelques années en arrière parce qu'il y a des gens comme Arkhamis qui arrivaient comme ça en disant on démixe, on remixe. Alors je sais bien que c'est pas du tout le même système, que eux c'était vraiment une contorsion intellectuelle qui frisait la malhonnêteté et que l'algo, à mon avis, finira par marcher. Mais le fait de l'appliquer aux films de catalogue, alors on me dit ah oui, mais commercialement c'est bon parce que les gens vont pas vouloir regarder le film si c'est pas en 5.1. Alors ça, je pense pas que ça s'applique aux gens qui vont acheter les films de patrimoine. Quelqu'un qui achète Alors peut-être pas Psychose, parce que Psychose depuis 78 il est vendu comme un slasher, ils ont changé l'affiche pour mettre une affiche rouge avec un couteau, hein, que c'était pas du tout l'affiche originale, et ce film est vendu comme un film d'horreur depuis le milieu des années 70, alors que c'est juste un thriller psychologique absolument génial, d'une précision, alors là pour le coup c'est d'une précision tant en termes de mixage qu'en termes de montage qu'en termes de tout. Enfin,
il y a beaucoup de questions, et c'est des questions qu'on se pose chez nous en interne de toutes les manières, dans la mesure où il faut être clair, on est des ingénieurs, on fait du traitement du signal, on se retrouve avec des trucs, avec des résultats assez intéressants, et on s'est dit, tiens, on va quand même y aller, on va quand même commencer à commercialiser. Alors, qui commercialise chez nous ? C'est quand même l'ancien directeur des ventes de THX qu'on a récupéré chez nous. On va chez Universal, et là, on tombe sur des malades, sur des mecs, brillantissimes. Blue Wave Audio, les studios de remasterisation d'Universal, sont des gens excessivement compétents et excessivement pointus. Alors maintenant, on a travaillé sur ce cas Psycho et on a beaucoup, beaucoup appris de, un, leur précision, ce qu'ils demandaient, jusqu'où on devait aller. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on casse en morceaux. Mais à la finale, on est totalement 100% conservatif. C'est-à-dire qu'on rajoute rien, on enlève rien. Juste, oui, je termine là-dessus. On ajoute rien, on enlève rien. Et on se retrouve parfois dans des situations un peu particulières. Parce qu'on fournit différentes pistes séparées. Et là, on se dit, il y a un truc bizarre. Il y a une piste, on ne comprend pas ce que c'est. Et donc, du coup, c'est devenu une anecdote, une petite histoire qui est maintenant dans la section bonus du Blu-ray, qu'on ne pouvait pas savoir avant. Quand ils ont fait le tournage de Psychose, ils l'ont fait en été. Et en été, c'était fait dans le studio, c'était une énorme grange, et il faisait une chaleur franchement conséquente. Et donc, pendant le tournage, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert les fenêtres de la grange. Ils sont rentrés dans la grange des petits oiseaux. Et donc, sur la bande sonore qu'on récupère, dans laquelle on fait les sources, on fournit des sources séparées, il y a ce morceau d'oiseau qu'on a récupéré, qu'on ne comprenait pas ce que c'était. Après, on est allé rechercher des explications de comment ça a été fait, etc. Et c'est quelqu'un d'Universal qui nous a dit « Je sais ce que c'est, ce sont des oiseaux. » Ça, on ne pouvait pas le récupérer avant s'il n'y avait pas cette technologie. On n'a pas de connaissances artistiques, nous. On travaille avec les ayants droit. Les ayants droit nous disent « L'instant T, c'est quoi ?» L'instant T, c'est le moment où ça a été enregistré en mono avec une très mauvaise qualité d'époque. Ou l'instant T, c'est le moment où
Psychose,
Bernard Herrmann...
C'est pas très mauvaise qualité, excusez-moi. Psychose, c'est de la super qualité.
L'enregistrement mono, l'original que j'ai entendu, était de mauvaise qualité. Celui sur lequel on a travaillé. Effectivement, il y a eu plein de nouvelles, d'autres versions.
La magnétique, parce que Hitchcock, il prenait pas des bras cassés.
On est tout à fait d'accord. Mais la question que je pose pour lancer le débat, c'est la question suivante. C'est que la scène de la salle de bain est une scène mythique. Théoriquement, il ne devait pas y avoir de musique. Quand Bernard Herrmann a dit... On va essayer, on va mettre une musique. Il y avait un orchestre qui a donné une dynamique, une sensation. Cette sensation, je suis désolé, quand j'ai écouté pour la première fois, je ne suis pas ingénieur son, mais quand les ingénieurs son de Blue Wave nous ont fait écouter l'original, on ne récupérait pas la dynamique de l'orchestre entier qu'on peut récupérer dans cette nouvelle version. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a différents points de vue. On veut récupérer le mono parce qu'à l'époque, on n'avait pas autre chose que du mono, ou est-ce qu'on veut récupérer un orchestre ?
Encore une fois, c'est pas parce que c'est mono que c'est mauvais. Il y a des excellentes prises de son mono, d'orchestre.
Est-ce que je pourrais savoir comment ça marche ? C'est-à-dire, quel est le traitement ? Comment vous travaillez ? Et si vous êtes en FFT, ce que vous faites et quelle est l'analyse ? En quoi consiste l'algorithme ?
D'abord, c'est pas un algorithme, c'est plusieurs algorithmes, dans la mesure où, suivant les bandes, suivant les éléments, il y a plein de choses différentes à traiter. J'ai un ingénieur qui est avec moi qui peut répondre.
Tout à fait. Donc, il y a les trois axes technologiques qu'Olivier a présentés. Le premier, c'était tout ce qui est lié au upmix, c'est-à-dire la conversion entre mono ou stéréo et plusieurs canaux. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est une sorte d'analyse très détaillée. C'est basé effectivement sur le FFT. Donc, c'est un spectrogramme très détaillé, analyse spectrale très détaillée. Donc, pour les cas mono, ce qu'on essaie de faire, c'est d'analyser d'une façon très détaillée comment ça évolue et au cours du temps. On prend chaque élément en fréquence, on regarde autour et surtout comment ça évolue. Et de façon qu'on peut un peu prédire comment ça va mixer avec ce qui vient dans l'avenir et tout ça. Et on essaie de prédire, on essaie de lisser le spectre, de garder un peu la forme spectrale qui correspond aux instruments originaux. Et comme ça, on extrait des éléments du spectre.
On est bien d'accord qu'un instrument, ce n'est pas juste une ligne. Il y a toutes les harmoniques. Il y a le fondamental, mais il y a toute la composition du timbre.
Tout à fait.
Et le temporel.
Et il y a surtout plus le son. D'attaque. Je voudrais savoir si vous travaillez sur les millisecondes du régime d'attaque de n'importe quel son, que ce soit un instrument, que ce soit une voix ou autre chose, indépendamment du fait que vous travaillez sur la bande passante et son évolution, et son éventuelle fin comme un instrument. Hein. Est-ce que tous ces paramètres-là jouent dans un algorithme d'analyse, si j'ose dire ? Est-ce que oui ou non ?
On a plusieurs versions, et il y a des versions vraiment dédiées à des instruments spécifiques, pour la voix, pour les cuivres par exemple. Et dans ces cas-là, on a un modèle détaillé aussi de la partie de l'attaque, et carrément aussi d'une division des un peu les processus physiques qui produisent les sons. Donc il y a la partie de l'attaque. Pour les cas de la voix c'est peut-être le modèle le plus développé qu'on utilise.
Oui.
On divise la partie qui correspond au filtrage de la bouche. Donc il y a
le résonateur.
Le résonateur, tout à fait, qui produit des formants. Après, il y a la partie qui correspond au son original des cordes vocales. C'est tout filtré. Donc il y a trois parties, deux parties, source, filtre. Et pour la partie de l'attaque, bon, ça dépend parfois. Ce n'est pas complètement automatique. Donc il y a une partie automatique, il y a une partie assez importante de travail manuel où on peut même adapter la résolution selon si on a besoin d'attaquer la partie attaque. Cela dit, bon, c'est vrai que comme on a tellement de variabilités, des sources et des types d'instruments, en fait, notre but à mi-terme, long terme, c'est de traiter chaque cas séparément, étudier très en détail les caractéristiques sonores de chaque instrument. C'est une tâche mathématique assez importante de mesurer l'attaque, la transition, pas seulement l'attaque, mais la transition quand une mélodie entre plusieurs notes et tout ça, et essayer de modéliser ça mathématiquement. Ça, c'est une partie de notre but.
Quand vous avez trouvé une structure de régime d'attaque, de modulation par le corps de la bouche, de la voix, par les variables des cordes vocales, pour un chanteur donné, dans un spectre donné, qu'on va appeler sa tessiture, qui est parfois petite, est-ce que ça vous sert partiellement de modèle pour l'ensemble des notes musicales émises au cours d'un même texte ou d'une même chanson ? Ou est-ce que vous repartez à zéro à chaque nouvelle attaque musicale vocale ?
Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on essaie de moyenner un peu les caractéristiques. Mm-hmm. Ok.
D'accord.
Pour chaque chanson.
J'entends.
C'est-à-dire, on n'a pas un modèle pour chaque note encore, parce que c'est très difficile d'avoir les données pour faire l'apprentissage qui correspond à chaque note, parce que c'est seulement présent dans le mélange, dans le mix.
Est-ce que, par exemple,
on essaie de trouver un compromis entre la variabilité qu'on peut avoir dans un modèle d'apprentissage séparé.
Le sujet est très très vaste et on a besoin de toute l'aide du monde pour pouvoir améliorer ça.
Hervé, tu...
J'ai une question philosophique. Excusez-moi, je suis de l'image et pas du son, mais les problématiques se ressemblent beaucoup. Je voudrais reposer une question. Quel est, entre guillemets, le produit final ? Le produit final, c'est un film. C'est-à-dire que l'outil de création produit un film. Ce film a été fait avec des contraintes techniques qui ont été intégrées aux contraintes esthétiques. Et inversement, les contraintes esthétiques ont travaillé avec les contraintes techniques. Donc on a un produit fini. À partir du moment où on le prend et qu'on transforme ce son en le spatialisant ou en l'utilisant autrement, on ne respecte plus cette création. C'est la même, en fait, la problématique. On en fait une autre, mais ça, j'ai pas de problème métaphysique sur cette question-là. Mais il faut pas se tromper sur.
C'est du film de patrimoine, si.
Oui, non, mais si. C'est-à-dire que non, mais attends une seconde. On peut admettre que, en mettant bien les logos, les machins, les trucs et les informations, on fasse les deux. Mais il y a quelque chose de fondamental. C'est la même chose que je comprends pas moi qu'on spatialise le son de Hitchcock et qu'on n'accepte pas de coloriser Hitchcock.
Il y a une incohérence. C'est exactement la même problématique.
Voilà, je fais la provoque quand je dis ça. Il y a une incohérence pour moi qui est totale.
Mais elle est en 3D aussi.
Et là,
la version 3D, la version française aussi.
Ben voilà, c'est exactement ça.
C'est encore pire.
Et on réécrit les dialogues parce que, quand même, elle est un peu cucu la praline dedans.
Ouais, ouais, c'est vrai.
C'est
puis la scène, là, j'aimerais bien.
On a trahi un auteur.
Voilà. Et je voulais dire tout à l'heure, vous m'avez dit oui, mais on démixe et on remixe avec les mêmes choses et donc c'est pareil. Je voudrais faire une.
Une petite remarque culinaire, le mixage, c'est exactement comme la blanquette de veau. Si vous filez à 10 cuisiniers les mêmes ingrédients pour faire une blanquette de veau, vous aurez 10 blanquettes de veau différentes. Et ce que vous êtes en train de dire à cette noble assemblée de mixeurs ou de mixeurs en devenir, c'est de dire ouais, mais bon, les mixeurs, oui, bon.
Mais c'est pas les ayants droit. On travaille avec les ayants
droit. Ah oui, non, mais d'accord, c'est du business. C'est du business.
C'est du business. Eux qui viennent nous dire. Voilà. Ouais, alors, on veut les éléments.
Là, on va aborder la question des ayants droit. Et voilà. Et on va pas. Moi, je viens de faire un livre où j'ai utilisé des peintures et des photos d'ayants droit. Et ben, c'est les plus chers. Aujourd'hui, les créations qui coûtent le plus cher, c'est celles qui sont gérées par des ayants droit, parce qu'ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est à rien foutre de leur journée et à gagner du fric avec leur patrimoine.
Voilà. Sauf que la vraie question, c'est surtout, est-ce que vraiment ils vont en vendre plus si c'est 5+1 quoi? On prend un condamné à mort s'est échappé en 5 plus 1. Est-ce que je vais en vendre plus qu'un condamné à mort s'est échappé, ouais. Super resto
mais,
en mono?
Mais ça, on revient à quelque chose de fondamental.
La réponse, à mon avis, c'est non. Mais, bon.
Mais on revient à quelque chose de fondamental qui est le problème de l'éducation du public. Si on ne lui apprend pas à écouter du mono et lui faire comprendre la subtilité d'un son mono et qu'on lui raconte, parce que les fabricants de matériel racontent depuis 20 ans que les appareils numériques sont meilleurs ou moins bons que les appareils argentiques, que le mono est moins bon que le 5.1, ce n'est pas moins bon, c'est différent. Et il faut arrêter de colporter ce discours de fabricant de matériel.
Attends.
Vas-y, Jean-Louis.
En plus, il y a une chose énorme, c'est que l'ensemble d'une œuvre qui est faite de ce que je vois et de ce que j'entends fait marcher plus ou moins en avant ce que je vois par rapport à ce que j'entends, par rapport à une histoire. Et le fait que le son soit monophonique à tel niveau, à tel moment, est-ce qu'il fait un contrepoint à l'image? Est-ce qu'il va dans l'image? Est-ce qu'il va à côté, telle une voix off? Suivant ce qu'il fait, il excite des moments culturels de mon cerveau, de mes neurones, qui ne sont pas du tout les mêmes. Quand j'écoute un 5-1, je suis à un spectacle latéral. Et ce spectacle latéral a ses mouvements et ils viennent ou s'ajouter ou gêner ce que j'ai comme excitation visuelle de l'image. Il ajoute ou il n'ajoute rien. Quand c'est bien fait, il ajoute, et on a fait West Side Story. Quand c'est mal fait, on fait des trucs en plus qui sont n'importe quoi, des coups de raquette à gauche et à droite, et on a appelé ça du 5-1, mais on l'a vendu plus cher.
Et quand on fait de l'étalonnage d'un film, c'est-à-dire qu'on travaille la couleur de ce film pour en déterminer l'image finale, et qu'on le fait avec le son ou pas avec le son, les couleurs n'ont pas la même intensité. Voilà. Parce que la perception visuelle et sonore est un tout. Et il ne faut jamais l'oublier, nous sommes dans une globalité, même si les techniques de production nous obligent à un moment donné à les séparer, nous sommes dans un tout.
Bon, moi je crois... Il y a quand même un point sur lequel je voudrais revenir, ou du moins une précision. Audionamics ne prétend pas, dans son discours, faire de la restauration.
Si, c'est marqué sur leur site. C'est marqué
alors, non mais, moi, dans la conversation...
Qu'on soit clair, on fournit les outils pour faire la restauration. On ne va jamais au bout de l'opération. On travaille uniquement avec les ingénieurs.
Si vous sortez un algo qui m'aide, qui est un dénoiseur de plus, s'il marche, je le prends.
Aujourd'hui, la problématique qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devient avec des plugins Pro Tools et on les fournit, ou est-ce qu'on se met dans une démarche service et on travaille avec les gens qui ont la connaissance du résultat final et on leur fournit des outils? On
est vraiment dans votre communication, vous mélangez tout ce qui est extraction, restauration, vous mettez tout sur le même plan, quoi.
C'est-à-dire qu'ils font de la restauration, s'il y a un incident de tournage, oui, à ce moment-là, c'est la restauration, parce qu'il y a eu un incident de tournage sur le son et qu'il y a un micro qui est tombé par terre et qu'il y a eu un bruit.
En général, ça finit pas au mix, quoi.
Non, mais justement, ouais. Mais on peut imaginer ce genre de choses. Mais ce n'est pas de la restauration au sens historique. C'est-à-dire que tu tournes un film aujourd'hui,
c'est du
dénoise,
quoi.
Voilà,
c'est du dénoise.
Un peu plus élaboré.
Une question, alors, elle est pour la salle, mais en même temps, elle est pour tout le monde ici présent. Le problème de la restauration, c'est qu'on se retourne vers un patrimoine, on se retrouve vers des œuvres, et on essaie de les remettre dans un état original le plus proche possible de ce qu'était leur virginité. Est-ce qu'en date d'aujourd'hui, les professionnels du cinéma s'interrogent sur ce que vont devenir leurs œuvres? dans les années à venir. Et face à ça, quelle est la véritable problématique auquel vont être confrontées les futures générations de restaurateurs? Donc, est-ce qu'il y a une réflexion à nourrir là-dessus? Et est-ce que parmi nos intervenants, il y a déjà des formes de recommandations à faire de façon à ce que, justement, quand les œuvres sur lesquelles ils auront travaillé vont tomber entre les mains d'autres restaurateurs qui auront fatalement quelques travaux à faire? Bon, l'un des travaux de Jean-Louis est intéressant. Il est venu, ce qu'il a... Il ne nous l'a pas ouvert, mais c'est sa partition. Et ça, c'est un outil absolument extraordinaire parce que c'est un véritable leg. C'est toute l'histoire d'un mixage, d'un montage qui est présent dans...
C'est l'histoire d'une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Mozart, point barre. J'ai greffé des infos personnelles de travail, d'ouvrier par-dessus, pour me retrouver dans un océan d'un opéra de 3 heures. Et à partir de là... Quand j'ai touché à quoi que ce soit de cette œuvre, que ce soit quand on a fait les prises de son originales avec l'orchestre et Lorin Maazel à l'église du Liban, quand on a fait les prises de son des récitatifs sur le tournage, quand on était à Vicenza ou à Venise, bon, tout ça, j'avais toute mon installation, une belle installation qui marchait bien, et puis une partition sous le nez. Et quand les chanteurs venaient s'écouter après les prises, on dit « Ah, celle-là, c'est mieux. Mais de là à là, ah non, faut pas le prendre. Je suis meilleur dans celle d'avant ou dans la troisième. » Tout ça en note. Tout ça, on en tient compte après, quand on coupe et constitue ça en fonction des images. Si vous n'avez pas un guide suprême, excusez-moi de l'analogie, hein, vous êtes paumé. Vous êtes à côté de la marque. Même la script, qui est l'agent administratif, qui note tout, ce que dit le metteur en scène, ce que font les acteurs, les raccords, pour éviter les faux raccords. Je tenais cet appareil dans la main droite, mais on m'a mis dans l'autre sens. Ah, maintenant, je le tiens de la main gauche. Raté. Bon, et ainsi de suite, comme ça. Eh bien, au-delà de ça, il y a l'espèce de Bible, l'espèce de testament suprême, ça s'appelle la partition de Mozart. Et la guerre que j'ai faite avec Lauzet, et il l'a compris, parce que c'était un homme cultivé et intelligent, il a compris que j'étais tellement passionné par Mozart, la guerre ne pouvait pas exister entre Mozart et moi, entre Mozart et lui, c'est impossible. Alors... Donc on a utilisé ça, et quand on a remixé, je me suis retrouvé, j'avais une chance pour moi. Cette œuvre, je l'ai tellement manipulée sous forme technique, pendant tellement de temps, j'ai eu... plus de 20 mois de travail. Et après, quand on a remixé, nous avons dépassé les 7 mois de travail.
Mais du coup, Jean-Louis, je crois que c'est là. Alors peut-être que l'exemple de Don Giovanni est une forme de summum dans le domaine du traitement du son et de l'image, mais c'est l'une des questions qu'on a, c'est-à-dire que les gens qui tournent actuellement, est-ce que quelque part ils se posent la question comment va vieillir mon œuvre? Et compte tenu d'ailleurs de la, je dirais, de l'évanescence d'un certain nombre d'outils, comment les prochains restaurateurs sont, etc., vont se retrouver, avec quels outils, de quels outils vont-ils disposer et de quelles informations?
Jean-José, il y a beaucoup plus grave. Sur quel support, de quel support parlons-nous? Le support original, acétate, c'était inflammable. Hein, moi, j'ai vu une bobine de 300 mètres de pellicule d'acétate brûlée. Ça fait peur, hein. Ça fait des flammes plus hautes que la pièce, hein. Ensuite, on s'est retrouvé maintenant avec des images qu'on sait numériser. Alors, sur des cassettes, sur des bêta numériques, sur tout ce que vous voulez. Maintenant, sur des disques durs. Des disques durs. C'est, paraît-il, la forme infaillible. Pas vrai? Pas vrai? On avait tout mauvais quand on a remixé le film. On avait d'énormes disques durs qui étaient des, je ne me souviens plus, peu importe. Et on en changeait toutes les 3 heures. Et quand le film a été fini, qu'on a tout eu et qu'il a fallu parler d'aller faire des DVD, on a dit combien on en a? Il y en avait plus long que la table, des disques durs. Alors j'ai appris que dans ces disques durs, c'est dans un vide, c'est isolé dans un vide et qu'il n'y a pas de contact physique avec un axe mécanique, comme on aurait dit un roulement à billes, si vous voulez. Bon, il y a peut-être un roulement au milieu.
Un disque, ça dure 5 ans, point barre.
Hein. Ah bon, il aggrave son cas, là.
Il n'y a pas seulement ça, c'est qu'un disque, si vous ne l'utilisez pas régulièrement, Il faut savoir qu'il se démagnétise.
C'est pour ça qu'il faut retirer des copies.
En plus.
Oui.
Ah, je savais pas,
un disque, vous ne pouvez pas l'éteindre pendant 5 ans parce qu'il se démagnétise.
C'est surtout qu'on n'est pas sûr de le redémarrer.
Non, il se démagnétise. Et je connais plusieurs personnes qui en ont fait l'expérience.
Ah bon. Bah alors, on m'a donné une troisième réponse. Ça, c'est des infos que je tenais par l'INA. Et alors, on m'a dit, le seul support qui résiste au temps, c'est le Master Glass. Le Glass Master, c'est-à-dire le vrai original quand on grave un DVD ou un CD. Alors, on m'a prétendu que ce Glassmaster était capable de résister à au minimum 300-400 années. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas 300-400 ans.
Personne n'a
l'expérience. Bon, donc, ça a été estimé par des spécialistes.
C'est pour ça que c'est important de retirer des copies.
Donc, quelle est la bonne solution? Quel est le bon support? Je ne sais pas. Je vais vous dire, le meilleur support, même pour Psychose de monsieur Alfred Hitchcock, c'est ma tête et ma mémoire.
Donc, alors un point de précision, mais Gisèle est là pour conclure. Effectivement, bon, j'ai passé 5 ans dans une société qui s'appelle Digipress, qui est la première société au monde indépendante à faire du Glassmaster. Donc le Glassmaster, c'est une chose. Le vrai support auquel fait référence Jean-Louis, c'est le Century Disc, c'est-à-dire qu'au lieu de presser un disque en plastique, on vient par une technologie qui relève du monde du circuit intégré, du semi-conducteur, on vient graver les micro-cuvettes dans un verre trempé. Et là, effectivement, on a un support inaltérable qui résiste à pas mal de choses. On était donc sur l'espèce de... comment les gens du mixage, du montage cinéma aujourd'hui vont préparer l'avenir pour dire ensuite à la nouvelle génération de restaurateurs, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui et comment on l'a fait. Donc, est-ce que ça vous donne quelques repères pour restaurer, s'il y a à restaurer? Et il semble qu'effectivement, on a un vrai problème devant nous.
Non, ils vont faire exactement comme ceux des années 30, à savoir finir leur film, prendre leur chèque et passer au film suivant.
On va faire un peu la même chose avec les sujets de conférence. On va passer donc de la restauration des films sonores à la 3D. On avait pensé à faire un livre blanc de la restauration où chaque travail pourrait être amené dans une espèce de contribution générale.
Voilà l'idée.
Donc on va peut-être contacter des gens qui sont qui étaient là à cette conférence ou le faire par le biais du magazine Réalisation pour vous proposer éventuellement de proposer des contributions qui pourraient ouvrir un livre pour faire avancer un petit peu les choses. Voilà.
Merci, merci
désolée,
à tous.
C'est du rapide.
Non, mais merci à tous. Merci aux intervenants. On a débordé, mais
merci beaucoup à Monsieur Ducarme et à tous les autres personnes qui se trouvaient autour de cette table pour nous avoir animé ce débat. C'est eux. Moi, j'ai rien fait.
Autre radio, autre culture.